Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Voilà, on a commencé une petite série en deux parties vendredi dernier. On a vu ensemble quelles étaient les cinq raisons pour l'échec, ou quels sont les cinq poisons de notre vie. Pourquoi pas tout le monde arrive, parvient à vivre la vie selon la parole de Dieu. D'un côté, on a des chrétiens qui disent Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est puissant. Et en même temps, notre vie ne reflète pas toujours cette vérité. Et j'ai voulu avec vous, pendant deux vendredis, réfléchir à quelles pourraient être les raisons pour lesquelles certains d'entre nous, on a du mal à vivre la vie que Dieu a pour nous. Je ne veux pas tout résumer, mais dans Josué chapitre 1, au verset 1 à 9, on a vu ensemble que Dieu donnait une parole extraordinaire au peuple d'Israël. Il a dit « Moïse est mort, donc Josué, tu prends la relève. » Il a dit à Josué « Josué, va à la conquête du pays, tu n'es pas à la retraite. L'âge de la retraite est le meilleur âge pour aller conquérir des nouvelles terres. » Vous avez plus de temps, en principe. Et Dieu dit à Josué, vas-y, va à la conquête. Et il dit au peuple, prends la parole de Dieu, médite-la jour et nuit, prends la Bible, base ta vie sur la parole de Dieu. Non pas d'une façon sectaire, non pas d'une façon religieuse, mais découvre le Dieu de la Bible, découvre le Dieu qui se manifeste au travers de la Bible. Et Dieu dit à Josué, Josué, mets tout ton cœur, médite jour et nuit, au verset 9, il dit, au verset 8, 9, je le dis jour et nuit, mets-la en pratique, et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, que tu auras du succès dans ce que tu fais, tu réussiras. Alors une parenthèse importante, je ne suis pas du tout le genre de prédicateur qui va vous prêcher l'évangile de la prospérité. Je ne crois pas à cet évangile, je ne crois pas que si tu donnes 1 euro, tu vas recevoir 1000 euros. Je ne crois pas à cela, je crois que Dieu bénit l'homme fidèle. Je crois que Dieu bénit l'homme qui est fidèle dans ses finances, fidèle dans son mariage, fidèle dans son travail, intègre. Je crois que Dieu ne bénit pas ceux qui jouent au loto avec lui. Je donne 1000 euros, Seigneur, donne-moi 10 000 euros. Ça ne marche pas comme ça, ça marche avec un cœur intègre. Donc Dieu nous demande de donner parce qu'on est généreux. Mais on ne donne pas pour recevoir, on donne parce qu'il est bon de donner. Il est préférable de donner que de recevoir. Donc quand on dit ici réussir au succès, on ne parle pas du succès selon le monde, on parle du succès selon le cœur de Dieu. Avoir du succès qui plaît à Dieu. Un homme, une femme qui plaît à Dieu. Mais pourquoi avons-nous tant de mal à réussir le plan de Dieu? On a vu ensemble que les trois premiers poisons. Le premier, c'était la paresse. Tout le monde dit la paresse. La paresse est le pire des poisons qui va vous empêcher de vivre la vie que Dieu a pour vous. Rien ne va arriver dans la vie du paresseux parce qu'il ne fait rien. Et rien plus rien égale exactement. Donc on ne peut pas être paresseux. On a vu ensemble que l'avenir du paresseux se résumait à un mot simple, nada. On a vu ensuite que le deuxième poison, c'était avoir des attentes irréalistes. Vous savez, nombreux sont les chrétiens qui, au lieu d'avoir le rêve de Dieu, ont des attentes irréalistes. Par exemple, ils se disent, demain, je serai le meilleur trayeur au monde. Je vais battre Kylian Jornet. Mais il passe sa journée à regarder les vidéos de Kylian Jornet. Mon ami, tu vas pas le battre comme ça. Oui, demain, je vais être le prochain Bill Gates. Et tu veux même pas te lever pour prendre le premier travail qu'on t'offre. Non, 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 non. Il faut que tu comprennes que les idées irréalistes ne se manifesteront jamais dans ta vie. Elles resteront qu'un cauchemar. Pour commencer à vivre le plan de Dieu, il faut revenir vers le rêve de Dieu. On a vu la différence entre le rêve de Dieu et une attente irréaliste. Bienvenue la pluie. C'est que le rêve de Dieu te donne l'énergie. Le rêve de Dieu te sort du lit. Le rêve de Dieu te motive, te passionne, te nourrit. Une attente irréaliste te laisse sur une chaise à croire et à t'imaginer des choses et à espérer des choses. Mais un rêve selon le cœur de Dieu te bouge. Amen. Troisième point, on a vu que le troisième poison, c'est la nonchalance. La nonchalance, c'est de faire les choses sans passion, sans respect, sans désir, sans envie, sans vie. Donc tu dis à ton fils, fais ton lit, il va le faire une heure plus tard, si c'est dans le meilleur des cas, trois jours plus tard, si tu n'as pas crié avant, il va traîner la patte, il va dire oui, bon, je vais le faire, c'est la nonchalance. Moi, quand je parle à des hommes d'affaires et des chefs d'entreprise, s'il y a une chose qu'un chef d'entreprise n'aime pas, c'est la nonchalance. Il dit à son employé, fais telle chose. Ouais, bon, d'accord, je le fais. C'est presque comme si l'ouvrier rendait service au patron. Dans quel monde on est? Un jour, on me disait, oui, mais tu sais, les patrons, ceci, les patrons, cela, les patrons. Je disais, d'accord, mais si tu enlèves ton patron, t'as plus de boulot. Ah ouais, c'est vrai. Je ne suis pas pour l'abus, vous connaissez mon cœur. Mais il y a un respect à avoir, il y a une nonchalance à détruire. Les jeunes, ne soyez pas nonchalants à l'école. Si vous êtes chrétien, vous devez être les premiers. Faites les faillots. Pas le faillot qui dénonce. Le faillot qui est le premier à servir, le premier à laver le tableau, le premier à ranger les chaises, le premier à avoir 20 sur 20 en maths. Sans apprendre. Non, c'est pas assez. Non, non. Alors, les trois poisons sont les suivants. Paresse, attente irréaliste et nonchalance. Le quatrième poison est pas mal du tout. Le quatrième poison qui peut t'empêcher de vivre le plan de Dieu dans ta vie s'appelle, vous êtes assis, c'est bon ? Le bien-être matériel. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. Le bien-être matériel, écoutez ça. Je vais essayer de vous résumer en quelques mots. Le bien-être matériel est constitué de tous ceux qui rendent notre vie agréable. Le confort qui nous semble indispensable, mais qui en réalité est superficiel, voire futile. Restez assis et faites-moi confiance, je ne vais pas vous dire tout vent, d'accord ? Relax. Par exemple, ce qui est superficiel, futile, qui n'est pas indispensable, four micro-ondes. C'est super utile, mais ce n'est pas indispensable. Machine à laver la vaisselle, indispensable ou pas ? Qui pense que c'est indispensable ? Les gars. Il y a encore 2-3 ans en arrière, on était en Afrique du Sud, Elodie et moi, on avait une super grande baraque, une femme qui nous aidait à faire le ménage, enfin non, qui faisait le ménage. Nous avions une machine à laver le linge, sèche-linge, machine à faire la vaisselle. Et puis arrivé à La Réunion, la maison que nous avons en ce moment est trop petite. La cuisine ne peut pas accepter une machine à laver, la vaisselle. Alors Elodie m'a dit, c'est super chérie, tu es là. Tu es la nouvelle machine à laver la vaisselle. Et on le fait ensemble et on bosse ensemble. Et vous savez quoi, je me suis rendu compte qu'après tout, ça ne me manque même pas. C'est bien hein, d'en avoir une, mais ce n'est pas indispensable. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire ce soir ? J'essaie de vous dire que un centre commercial n'est pas indispensable. Ah, les filles disent non. Bien sûr que c'est bien. Écoutez-moi, avoir 2 voitures, ce n'est pas indispensable, mais c'est génial. Avoir chacun un téléphone portable, ce n'est pas forcément indispensable, mais c'est bien. Avoir un ordinateur, ce n'est pas indispensable, mais c'est super d'en avoir un. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous vivons dans une culture matérialistique où tout le monde pense matériel et finances. Et si nous ne faisons pas attention, voici le danger, c'est que le confort matériel devient une idole. Ce n'est pas mal d'avoir 2 voitures, ce n'est pas mal d'avoir le téléphone, ce n'est pas mal d'avoir des belles fringues, ce n'est pas mal d'avoir des centres commerciaux. Ce qui est dangereux, c'est lorsque, écoutez bien ça, ce qui est dangereux, c'est lorsque nous avons une possession, lorsque nous avons une maison, 2 voitures, un ordinateur, c'est que tout ce bien-être nous empêche de faire le plan de Dieu. Si nous devenons dépendants et vulnérables à un tel point que sans ces choses-là, nous ne servirons pas Dieu, le danger est le suivant dans le confort matériel, c'est que si nous dites, Seigneur, tu sais, je veux te servir, mais pas sans ça, et pas sans ordinateur, pas sans voiture, pas sans... Cette semaine, on a été testé. Cette semaine, l'équipe pastorale a été testée. Harold, Cédric, Jérémy, et qui encore ? Et Mathieu, bref. 4 véhicules de l'équipe pastorale sont tombés en panne en 24 heures. Et à ma plus grande surprise, ça ne nous a pas empêché de travailler. C'est molle, j'avoue. J'ai demandé à ma secrétaire de faire un test pour lui dire, écoute Roxane, vois combien de temps je peux prendre si je vais de chez moi au tampon à la nouvelle salle de Saint-Pierre par bus, en bus. On m'envoie un email, elle me répond 1h45. Je dis, bon, on n'est pas en Suède. On n'est pas à Chicago. Il y a un problème de réseau routier à La Réunion, mais surtout de transport en commun. Les gars passent par Mafate entre les deux, quoi. C'est pas possible. 1h45 pour faire 10 minutes de route, il y a un problème. Et mon point, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu nous dit ce soir que le confort matériel, c'est super, c'est bien. Il n'est pas contre ça parce que c'est un bon père, c'est un Dieu extraordinaire. Un père qui veut combler nos désirs. Mais quand nos désirs deviennent une idole, il sait que ce n'est plus une bonne chose. Donc ce soir, le point numéro un, c'est que si le confort matériel devient un obstacle entre toi et son plan, tu dois remettre ta vie devant le trône de Dieu et dire: Seigneur, est-ce que ce que j'ai ce soir n'est pas une idole? Est-ce que ce que je possède me possède? Je me suis souvenu de ce passage dans la parole de Dieu où on parle du peuple d'Israël. Vous savez qu'il passait 40 ans dans le désert. On lira un peu plus tard ce soir, mais le peuple d'Israël passe 40 ans dans le désert. Écoutez bien ça, après des années dans le désert, ils se mettent à repenser à l'Égypte. L'Égypte, c'était un pays dur pour eux. Ils étaient esclaves, Pharaon les opprimait, c'était dur, ils souffraient, ils ont crié au secours, Dieu les a sauvés. Mais dans le désert, ils voyaient tellement peu de choses arriver pour eux, entre guillemets, ils disent: Bon Seigneur, tu es là, d'accord, mais c'est dur. Dans le désert, ils ont préféré se dire: on veut mourir ou aller en Égypte. Quel est le problème du confort matériel? C'est que le confort matériel va t'empêcher d'aller vers la terre promise. Le plan que Dieu a pour toi. Parce que le risque de dire: c'est trop difficile, trop dur, j'ai besoin d'avoir tout ce que je possède, et donc je ne peux pas faire le plan de Dieu. Parce que imagine qu'un jour, et ça m'est arrivé de plusieurs fois, Dieu te dit: quitte ton pays, quitte ta nation, vends et donne tout ce que tu as et va vivre ailleurs pour mon plan. Si tu es possédé par tes possessions, tu ne quitteras jamais ce pays, tu ne feras jamais le plan de Dieu. Si un jour tu te dis: écoute, donne ta montre ou donne ta voiture ou donne ton iPad, et que tu es trop lié par ça et ça te possède, tu ne pourras pas faire le plan de Dieu dans ta vie. Et donc il faut arriver à jouir des choses que Dieu nous donne sans être possédé par les choses que Dieu nous donne. Lisez avec moi dans 2 Timothée 2, verset 3, s'il vous plaît, sur vos écrans. Souffre avec moi, j'aime bien Paul. Et Paul est sympa quand il écrit à Timothée. Hein. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. L'expression lutter dans le grec ici est extrêmement intéressant. Le mot lutter ici en grec vient du mot grec athlésis. Athlésis, athlète, athlésis en grec. Et c'était un mot utilisé pour décrire un homme participant à une compétition athlétique du plus haut niveau. À l'époque de Paul, il y avait deux types de sportifs, comme aujourd'hui. Les amateurs et les professionnels. Si c'était un amateur, franchement, le gars n'était pas intéressant. Si c'était un pro, tout le monde avait les yeux rivés sur lui, pas seulement parce qu'il était bon, mais parce qu'il est impressionné par son entraînement et sa façon de travailler et sa régularité et sa discipline. Et quand Paul ici écrit à Timothée, il dit: si tu veux être un athlète, combat et lutte selon les règles, lutte en respectant les règles, il veut dire soit un professionnel, soit un homme qui donne sa vie entièrement avec discipline, intégrité, passion, puissance, bosse pour gagner. Il ne dit pas ici soit un chrétien amateur, il dit soyez des chrétiens professionnels, c'est-à-dire en sens faites des choses à fond. En fait, ce que Paul veut nous dire ce soir, il veut nous dire: est-ce que tu sers le Seigneur pour t'amuser? Es-tu un amateur ou es-tu entièrement déterminé à aller jusqu'au bout et à accepter la mission que Dieu a pour toi? Est-ce que tu es chrétien parce que c'est à la mode, c'est cool de venir le vendredi soir, ou tu vas être un chrétien qui reflète le cœur de Dieu? Es-tu un professionnel prêt à payer le prix, à prendre part à l'entraînement intensif, à supporter la pression, à maintenir une parfaite intégrité et à persévérer jusqu'à la victoire? Il y a une chose que j'ai apprise dans ma jeune vie de petit sportif amateur, même à mon niveau: si je cours avec des gars qui n'ont pas envie de courir, je vais régresser. Si je cours avec Fabrice, je vais mourir. La fois, on est avec Fabrice, je ne sais plus dans quel coin on était. Et il me dit, parce que Fabrice, c'est un gars intègre, mais parfois il ment un petit peu. Il te dit: non, il n'y a plus de cote là. Non, c'est fini après ça. Toi, tu donnes tout ton corps à fond. Il reste un virage et tu vois une cote qui fait Fabrice. Ah non, excuse-moi, j'ai oublié celle-là. Vas-y, on y va. Ouais. Mais lui, il se met en courant. Et je me suis rendu compte que plus je fréquentais Fabrice au niveau du sport, au-delà de ça bien sûr, c'est pas réducteur, plus je progressais. Ce que Paul veut dire ce soir, c'est que si tu veux être un chrétien qui influence, tu ne peux pas t'embarrasser tout le temps avec des choses trop confortables. Il faut que tu apprennes à vivre une vie qui en vaille la peine, prêt à payer le prix, prêt à prendre des risques, prêt à faire des choses qui sont plus dures que les autres peut-être, être un cran au-dessus des autres, pas par orgueil, mais par amour justement, pour montrer aux autres que ce que Dieu peut faire au travers de toi. Être discipliné, être un chrétien qui paye le prix. pas seulement venir le dimanche ou le vendredi soir, mais être un chrétien qui veut vraiment faire les choses sur le cœur de Dieu. Donc le vrai premier danger ce soir dont on parle, c'est le confort matériel. Être lié par ce qu'on possède. Alors je sais, on n'aime pas du tout lorsqu'on parle de ce sujet-là, mais je vous garantis, il est facile de servir Dieu quand tout va bien. Il est facile de louer Dieu ici à La Réunion, on n'a pas de problème de loi anti-religion. Tout le monde est libre. Et quand tu lèves ta voix en criant Jésus dans un monde musulman, tu es sur le point d'être lapidé ou tué. Ta femme est violée, des enfants sont massacrés. Mais ici, on peut tout faire. Donc c'est facile pour nous de dire j'aime Jésus, Jésus est vivant. C'est très facile en fait. Puis j'ai pensé à mon ami aujourd'hui qui souffre et qui se bat entre la vie et la mort, qui se bat vraiment pour vaincre ce cancer, qui est chrétienne, qui aime Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, qui sert Dieu, qui prie et qui pourtant lutte en ce moment. Et par respect pour elle ce soir, nous voulons témoigner de notre amour et pour tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles. Mais ces gens de chrétiens-là payent le prix. Et je dis, Seigneur, comment je vis? Comment moi je réagirai? Et j'ai souvent ça à le dire en ce moment. Je dis, chérie, allons vivre chaque jour comme si c'était le dernier que nous vivions. Pas de façon, je veux dire, négative, mais simplement pour remettre les choses en perspective. Vivre une vie comme un athlète, comme un soldat, comme un agriculteur qui travaille dur pour avoir les fruits. Pas dans le confort. Cet homme de Dieu qui est allé vivre en Russie, il est américain, il va en Russie et puis il se rend compte qu'en fin de compte, là-bas, la machine à laver, c'est vraiment un luxe. Là-bas, quand tu as l'eau courante et le courant, tu es content. Et il rentre aux USA pour faire une conférence et il partage sa vie et une fille, une jeune américaine vient le voir après. Elle dit, monsieur, vous n'avez pas de machine de lave-vaisselle? Il fait non. Mais comment vous faites? Regarde la femme, il dit, c'est simple, je remplis de l'eau chaude le côté gauche, je trempe l'assiette dans l'eau chaude, je savonne, je trempe l'assiette dans le froid, j'essuie. Elle fait, ça doit être dur. Et là, elle s'est rendue compte que les jeunes d'aujourd'hui, sincèrement, j'aime mes enfants et peut-être moi le premier qu'on les gâte un tout petit peu trop. Et donc l'avenir d'un enfant gâté se résume avec un seul mot: irresponsabilité. Quand un enfant est trop gâté, pourri, il sera toujours irresponsable, mettant la faute sur les autres. C'est à cause d'eux ça ne marche pas, c'est à cause de lui si j'ai pas réussi, c'est à cause d'elle, c'est le patron qui a tort, c'est le frère qui a tort. Un enfant qui grandit avec maturité, qui prend ses responsabilités à chaque âge, va savoir que les choses ne sont pas toujours faciles à avoir. Parfois ce qui m'inquiète, c'est que nous les chrétiens, nous prêchons tellement de messages sur Dieu donne, Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu donne, Dieu bénit. C'est super et c'est vrai, mais on oublie parfois que Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Je sais vivre que j'en ai plein, je loue Dieu. La vraie question c'est, est-ce que j'aime Dieu ou ce qu'il me donne? Regarde ton indice, la zone de confort peut être piégeuse. Et je finis ce point-là rapidement en me disant ça ce soir, Église. Pourquoi est-ce que je dis ça ce soir? Écoutez bien, Église. Personnellement, c'est ce que moi je veux vivre en ce moment. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, je fais des efforts avec mon épouse, on essaye de tout revoir notre vie en ce moment. Je vous ai promis que 2013, c'est l'année du caractère. Mais peut-être, s'il vous plaît, ne me lapidez pas. Mais peut-être qu'au lieu d'acheter une voiture neuve, on pourrait prendre une voiture d'occasion très très fraîche et donner la différence à un pauvre. Bon, c'était un grand amen très profond. Peut-être qu'au lieu d'avoir 3 télévisions, nous pourrions en avoir qu'une et donner une télévision à un pauvre. Peut-être qu'au lieu d'avoir 25 paires de chaussures, on peut en avoir 23. Et en donner 2 aux pauvres. Peut-être qu'au lieu de vivre avec 10 000 euros par mois, on peut vivre avec 8 000 euros par mois. On peut, je pense. C'est dur, 8 000 euros par mois, c'est très dur de vivre avec 8 000 euros par mois. Parce qu'il y a les impôts, tout ça, il n'y a plus rien pour nous, après on ne veut plus, il n'y a plus rien. Ouais. Peut-être qu'on peut commencer à se tenir potentiel et dire, je vais payer tous les mois un loyer pour un frère qui n'a pas de loyer. Je ne dis pas qu'il faut le faire, je vous dis ce soir, Seigneur, de prier avec le Seigneur, Seigneur, montre-moi ma vie, est-ce que je gère mes finances selon ton cœur, est-ce que je suis prisonnier des biens, est-ce que je suis prisonnier de mes biens et les biens deviennent mauvais. Ok, point suivant, un plus sympa le suivant. Regarde ton voisin, dit le pasteur il est gentil, Le poison numéro 5 ce soir, je terminerai avec ça. Le poison numéro 5, c'est accepter d'écouter et de recevoir et d'entendre un rapport négatif. Tout le monde dit un rapport négatif. Vous savez, ce soir, ce que Dieu veut donner comme image, c'est que nous sommes tous le peuple de Dieu, chrétiens, jeunes ou moins jeunes, et Dieu nous appelle à vivre une vie extraordinaire avec lui. Pas forcément spectaculaire toujours, mais extraordinaire sûr. Un couple restauré, une famille en bonne santé. Bref, la vie selon son cœur, du succès. Si tu es homme d'affaires et tu pèses 1 million ce soir, Dieu veut que tu pèses 10 millions demain pour que tu puisses donner plus aux pauvres. C'est comme ça, marche comme ça. Et Dieu veut te bénir, bien sûr, mais nous sommes tous là devant la terre promise et il y a le fleuve du Jourdain à traverser. Et je vous garantis que ce fleuve-là, ce n'est pas juste un fleuve tranquille. C'est un fleuve tumultueux avec des courants et des rapides. Et si tes yeux se posent sur le fleuve, tu ne traverseras jamais. Et je vous garantis qu'en ce moment, beaucoup de chrétiens, vous faites face à un fleuve devant la terre promise. Vous avez peur de le traverser, peur de prendre des risques, peur de vous tromper. Et je peux comprendre ça. Et le plus grand danger pour un chrétien qui veut servir Dieu, c'est d'écouter les rapports négatifs. Alors vous savez, j'ai fait une petite enquête cette semaine, j'ai été attentif à ce qui se passait et je me suis rendu compte que la plupart des informations que nous recevons, 98% des infos que nous recevons sont négatives. C'est comme s'il y avait une pression sur les journalistes de dégoter le pire fait divers. Du style, par exemple, j'ai noté quelques trucs aujourd'hui. Que mangez-vous vraiment? L'enquête qui révèle tout ce que vous ne voulez pas entendre. Là, t'es là, tu fais... Waouh, il faut que je regarde ça pour savoir ce qu'on va manger ce soir. Du cheval. Après tout, c'est bon le cheval. Désolé, on en a mangé depuis 10 ans, les gars, c'est pas grave. En bref. Ou sinon, les dangers cachés de l'aéronautique. Tout ce qui peut se passer en avion. Pouh. Ou sinon, attention, les nounous qui n'aiment pas vos enfants. Tu veux faire regarder ton enfant par une nounou et t'as une émission qui dit attention vos nounous, garde vos enfants, mettez des caméras partout et des sons électroniques et tout ça et des radars et tu flippes mon ami. Ou sinon, ce soir on vous dira la vérité sur vos vacances, ce qui se passe vraiment dans les cuisines des restaurants préférés. Et là, je parle même pas des faits divers du style il a massacré son chien et tout ça, je parle pas de tout ça. Je ne parle pas de toutes ces guerres, je parle uniquement des informations, enfin des émissions qu'on veut vous encourager à regarder en vous disant « Ce que tu manges, c'est pas bien. Depuis 40 ans, il y a du je sais plus quel truc dedans. » Et on vit toujours stressé en se demandant qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce qu'il y a vraiment derrière. Et on est rempli de négativité. Je ne sais pas pour vous, mais je me rends compte que beaucoup de chrétiens vivent dans la psychose. Il y a une femme que je connais qui est chrétienne, qui aime Jésus. Elle est super sympa, cette femme-là. Il y a 10 ans en arrière, il y a eu la grippe aviaire. Pouf, plus de poulet. Après, il y a eu la grippe porcine. Ou je sais pas qu'elle m'a dit du porcidou. Et là, plus de porc. Après, il y a eu le problème de la vache folle. Plus de vache. Je dis, mais demain, il y a un problème des œufs. Plus de œufs. Le poisson, je sais pas, il a trop de mercure. Plus de poisson. Je dis, tu manges quoi? Riz blanc. Bread, chouchou. D'accord. Ok. Le problème, c'est que ça pénètre notre corps, notre âme, et on a beaucoup de mal à penser à ce que Dieu peut faire, et on commence à croire qu'il y aura tellement d'obstacles pour faire ce que Dieu peut faire que vaut mieux attendre le retour de Jésus-Christ. Et on attend. Et on attend. Tout le temps. Aïe, 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 aïe. Regarde, c'est pas bien. Ce que je veux ce soir rapidement vous expliquer, Église. Je n'aurai pas le temps de finir mon message, je le finirai vendredi prochain. Mais écoutez bien ça. Le problème, ce n'est pas l'information. Le problème, c'est l'informateur. Parce que il est très dangereux pour un chrétien de faire l'autruche. Très dangereux pour un chrétien de ne pas être conscient de ce qui se passe réellement, de ne pas être proche de la réalité. Très dangereux de vivre dans la land. La maison dans la prairie, tout le monde est gentil, tout le monde est content. Ça c'est pas la vie. Être vrai. Mais le danger, c'est quand tu écoutes les informations et quand tu ne sais pas faire la différence entre l'information et l'informateur. Et ce soir, je veux t'encourager de tout mon cœur à prendre le temps, à faire attention à l'informateur. J'ai pas du tout le temps de faire mon message, c'est dommage. Parce que j'ai pas envie de vous venir trop tard ce soir, je vais vous prier avec vous et vous bénir, mais je finirai par la grâce de Dieu vendredi prochain et on va voir comment Est-ce qu'un informateur peut détruire votre vie? Pas seulement l'information. L'information, elle est ce qu'elle est. Par exemple, la faim dans le monde. 868 millions de personnes aujourd'hui vivent encore de malnutrition et ne peuvent pas se nourrir. Ce qui est vraiment grave parce que la Terre produit 4 fois plus de nourriture qu'il n'en faut. Le nombre de morts par le sida est effarant. Le nombre de cancers et de suicides. Donc la réalité, elle est là. On ne peut pas fermer les yeux. Mais le danger, c'est d'écouter l'esprit qui partage l'information et de perdre la terre promise à cause d'un informateur. Alors si vous voulez savoir comment on va passer le cap dans les semaines et les mois qui viennent, comment est-ce qu'on va vivre avec la foi et la paix et la joie et la passion malgré les difficultés, Jésus n'a jamais dit « Sois chrétien et tu n'auras plus aucun problème ». Jésus a dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Dans le monde, vous aurez de grandes tribulations. » Merci Jésus. « Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. » Et après, il a dit « Allez partager cette paix avec les gens qui vous entourent. Soyez des hommes et des femmes qui amènent la guérison, la paix, la joie. » Non pas que nous sommes des hypocrites et on fait croire que tout va bien. Quand ça va mal, ça va mal. Mais si ça va mal, tu dis « Seigneur, je te donne ce que j'ai, je t'offre ma situation, donne-moi une solution. » Vous allez voir que la suite du message, à mon humble avis, vendredi prochain, va être vraiment, vraiment intéressant pour beaucoup d'entre vous qui passez par des moments difficiles en ce moment. Si vous ne savez plus quoi faire, si vous ne savez pas comment joindre les deux bouts, si vous demandez comment faire pour aller vivre ce que Dieu a pour vous, ne manquez pas vendredi prochain. Ce n'est pas de la pub, mais c'est important pour vous de lire la parole de Dieu avec nous. Et on va voir ensemble en quelques versets extrêmement puissants qui, moi, m'ont nourri toute la semaine, qui m'ont aidé à passer le cap dans beaucoup de domaines de ma vie. Et ce soir, je vais finir en disant, frères et sœurs, que Élodie et moi, en ce moment, nous vivons des moments extrêmement intéressants, extrêmement profonds. Nous sommes en train de plus que jamais mettre notre vie droite devant le trône de Dieu. Nous sommes à la recherche de toutes les choses, petites ou grandes, qui pourraient empêcher le Seigneur Jésus-Christ d'être totalement fier de nous. Et je vous encourage à venir avec nous dans cette extrêmement belle aventure qui est le travail du caractère. L'intégrité se résume en quelques mots. L'intégrité, écoutez ça, hein, quand quelqu'un est intègre, plus tu le connais, plus il est beau. Quand quelqu'un n'est pas intègre, plus tu le connais, plus tu le fuis. Et l'intégrité, c'est être ce que tu es vraiment et ce que tu parais être. Ce que tu parais être, c'est exactement ce que tu es vraiment. C'est ça l'intégrité. Et ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment sur mon cœur de vous encourager quelques secondes et vous demander une phrase très simple. Est-ce que tu sais si oui ou non, maintenant même, tu es intègre? Est-ce que si tu te regardes dans un miroir, maintenant même, tu te dis « Je suis intègre » Ou est-ce que tu te dis « Il y a des choses que je cache, des choses que je dis et que je ne vis pas. » Mais je veux ce soir vous encourager, Église, ne baissez pas les bras. Romains 8, 1 nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Mais Philippiens, Paul dit aux Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé une œuvre en vous l'accomplira, la terminera, la finira. » Alors, on a vu 5 obstacles, on a presque fini le 5e, mais la paresse a éradiqué. Attente irréaliste, avoir des chimères, avoir une utopie, enlever de votre vie. Ayez le vrai rêve de Dieu. 3e chose, la nonchalance. Avoir une attitude qui est pourrie en fait. On fait le travail parce qu'on est obligé de faire un travail. Non, 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 non. Ayons de la passion. Faisons les choses avec passion. Soyons des passionnés. 4e chose, la zone de confort. Être trop confortable. Avoir trop de choses peut-être. Et peut-être ne pas assez partager autour de nous. Ce n'est pas forcément ce que Dieu veut que nous fassions. Je vous garantis, Dieu veut qu'on partage ce que nous avons, ce que nous sommes. Et 5e, ne pas écouter des rapports négatifs. Ne pas écouter ce que le diable dit, mais écouter ce que Dieu dit. Vous allez voir comment le faire vendredi prochain. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce soir? Mais je vais faire un acte très simple.